Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Good morning. How are you today?
Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 53, ici Richard Delhomme. Et voilà, retour aux affaires après 3 semaines d'interruption pour cause de naissance et de cette saloperie de virus à éradiquer de mon organisme. Aujourd'hui, je discute avec Pierre Gouillou-Beauchamp. Alors je sais que cela fait plusieurs épisodes que je consacre à l'Atlas Mountain Race, mais heureusement, Pierre a pas mal bourlingué avant de se lancer dans ce type d'aventure. Nous allons donc parler de son long voyage de 9 mois vers la Mongolie, de notre passion commune pour l'Iran, et enfin nous aborderons en détail ses péripéties au Maroc, notamment ses choix de matériel, mais également le mal aux fesses. Sans plus attendre donc, Pierre Gouillou-Beauchamp.
Allô Richard.
Salut Pierre, ça va ?
Ça va bien et toi ?
Ah mais ça va super, j'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé mon énergie, donc...
Bon.
Je retrouve le chemin du podcast et de tout, donc ça va, voilà.
Bon,
et toi ?
Super, ben, je suis content d'entendre ça. Ben écoute, moi ça va, écoute, c'est malgré tout c'est le printemps à l'extérieur, donc malgré tout ça va.
Ouais, tu vis en appart ou en maison ?
Ben je suis à moitié-moitié, je suis à moitié l'appartement à Lyon et la moitié à la on bouge à 1h15 dans les forêts du Bugey, près de Belley.
D'accord.
En direction de l'est par rapport à Lyon, quoi. Donc on est plutôt pas mal là-bas. Donc voilà.
Oh oui, c'est bien agréable.
C'est sympathique de faire le. Ouais, c'est assez agréable.
C'est très joli.
Certaine chance quand même d'avoir cette possibilité-là de s'extraire de la ville.
Complètement. Bon, est-ce que tu as alors. L'enregistrement a déjà débuté, hein, parce que je commence toujours dès le début. Tu sais, c'est un réflexe de reporter. J'enregistre dès le début pour capter des moments de spontanéité qu'on n'aurait pas pu capter avant. Ça inclut toujours une ou deux conneries ou deux trois erreurs de ma part, mais c'est ainsi. Ça fait partie de la spontanéité.
Ouais.
Je te propose qu'on attaque. Tout de suite, moi ça me permettra de retrouver mes marques parce que cela fait 3 semaines sans épisode et je suis un petit peu groggy quand même.
Ouais.
3 semaines à regarder La Belle et la Bête, Les Trolls et La Reine des Neiges. Je t'avoue que j'ai du mal encore à savoir comment je m'appelle en fait.
Très bien, bon moi je peux te citer quelques répliques des visiteurs si tu veux qu'on a regardé l'autre jour voilà, avec Jacouille, La Fripouille entre autres. Donc,
ouais. Ouais mais parce que tes enfants sont plus âgés.
Ben, les enfants de Lauriane, ouais, ils ont 10 ans et 6 ans, donc c'est moi qui leur ai dit, allez, moi, j'avais regardé un film il y a fort longtemps qui m'avait beaucoup plu, qui est assez culte quand même, donc j'aurais quand même montré Les Visiteurs, on a beaucoup ri.
Ouais.
Voilà. Ouais, c'est sympa.
Bah, là, moi, je me rends compte que je suis un petit peu entamé quand même, que j'y ai laissé une partie de mon patrimoine neuronal, si on peut appeler ça un patrimoine, vu ce qu'il en reste.
Ouais.
C'est qu'il y a 2 jours, j'étais seul et je me suis dit, tiens, je vais écouter de la musique. Et sans hésiter, j'ai mis la musique de Moi Moche et Méchant. Et c'est seulement après un morceau que je me suis dit, mais attends, t'écoutes Moi Moche et Méchant alors que t'es seul.
T'es pourtant tout seul, ouais. C'est ça.
J'ai coupé, j'ai mis un vieux black metal norvégien que j'affectionne particulièrement. Et là, je me suis dit, ok, mais quand même, ça m'inquiète un tout petit peu.
C'est bien. Bon, je m'écoute du Frank Black, tu vois, je m'écoute du Frank Black en ce moment.
Ah, c'est cool.
La discographie Teenager of the Year, là, je me suis mis tout à l'heure en rejoignant l'appart, c'est pas mal du tout.
Ouais. C'est vraiment un artiste. On va faire une petite parenthèse parce que tant pis, la musique, c'est aussi le truc qu'on utilise le plus à vélo pour passer le temps.
Mais
c'est vrai que Frank Black, ça fait vraiment partie de ces artistes qui ont su se renouveler et qui ont démarré avec les Pixies, qui ont fait d'autres choses après et qui ont su se réinventer et pas toujours nous ressortir du Pixies mal refait.
C'est ça. C'est ça, exactement. Non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Et ça me rappelle plein de choses parce que j'ai découvert ça il y a 20 ans ou 25 ans. Et donc j'ai écouté ça avec le même plaisir qu'il y a 25 ans quand je redécouvrais cet album-là que j'avais acheté en CD d'ailleurs à l'époque.
Ah,
voilà.
Génial le CD. Ça fait partie de ces formats morts.
Ouais, bah
mort
ouais.
Et mort bah et enterré, ouais. J'espère bien d'ailleurs, parce que ça a plus aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Et quand je vois des mecs dans des brocantes qui achètent des CD, ah, j'ai envie de leur mettre des tartes. J'ai envie de les frapper.
Après, il y a les vinyles qui reviennent, qui sont pas mal. Il y a un petit son organique qui est fort sympathique. Mais voilà, moi je suis pas équipé de ça, donc en général c'est plutôt le MP3 sur le téléphone, 10 heures en téléchargement et go sur le vélo, quoi. Mais ouais.
Ouais, le vinyle, ça fait un moment qu'il est revenu, puis là tu prêches un convaincu, parce que j'en ai, je dirais, 3000 à la maison, je collectionne.
Ah oui, effectivement.
Et j'ai très peu.
Les murs assez grands.
Ouais, bah, j'ai beaucoup de place, donc ça va, puis j'ai deux étages, donc je peux stocker. Mais j'ai quasiment pas de réédition, j'ai que des originaux. Et c'est vrai que le son, même en termes de volume, t'écoutes des vieux trucs et tu mets des rééditions, tu vois que le volume est plus du tout le même. Et comme le volume est beaucoup plus élevé sur les rééditions et sur les versions streamées, on perd beaucoup de détails et on perd beaucoup de choses avec les versions remasterisées et streamées. Et le son vide du vinyle, déjà certes, il y a un petit côté craquement, mais bon, s'il a été bien conservé, ça craque pas tant que ça. Mais c'est surtout qu'il y a plus d'ampleur, musicale en fait. Il y a plus de détails en haut et en bas.
Ouais.
Et c'est, tu t'écoutes par exemple Dark Side of the Moon, tu l'écoutes un petit peu fort, t'as l'impression de nager dans le son en fait. Alors que des trucs streamés, t'as moins cette impression de flotter dans la
sec,
musique.
Ouais
carrément. Ouais. Là, t'as l'impression de flotter dans le sable. C'est moins agréable.
Ouais. Tiens, flotter dans le sable, ben, on en parlera tout à l'heure de ça.
Exactement. Là, c'est la réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, putain, t'as 3 semaines de pas de podcast dans les yeux et t'arrives encore à faire des transitions dignes de...
Exactement.
Oh là 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 là. Bon, Pierre, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu?
Écoute, moi, je suis lyonnais, donc d'adoption depuis 10 ans. Je suis journaliste dans la presse vélo depuis pas si longtemps, depuis 6 ans à peu près. Même j'ai commencé à mes classes de journaliste au sein du magazine Terre Sauvage en 2005, donc il y a 15 ans maintenant. Je travaille plus pour ce magazine, mais ça m'a permis quand même de voyager de par le monde pendant une grosse dizaine d'années et de faire 3 ou 4 reportages, donc d'être 3 ou 4 mois à l'étranger tous les ans pendant 10 ans. Donc j'ai vu pas mal de pays. Après, moi, je me suis dirigé plus vers l'éducation aux médias pour le scolaire. Et voilà. Et puis je me suis mis évidemment dans la, enfin pas évidemment, mais enfin je me suis mis dans la longue distance. Il y a pas si longtemps non plus. Longue distance, j'entends par là les événements à la Chilcoute ou l'Atlas Mountain Race là de février 2020, parce que c'est des modèles qui sont plus accessibles pour moi, qui ai moins de temps de faire ce que j'avais fait en 2016, c'est-à-dire de prendre mon petit vélo et d'aller jusqu'en Mongolie pendant 9 mois ou 10 mois. Donc j'ai plus ce loisir-là, donc je voulais vivre des aventures plus compactes, plus resserrées, mais qui me procuraient aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de rencontres humaines. Donc je trouve que c'est des super modèles, en tout cas des super moments de vélo à partager, donc ça j'aime beaucoup.
Alors pour l'Atlas Mountain Race, je pense que je vais devoir envoyer un petit cadeau à Nelson, c'est obligé, je vais lui faire envoyer des fleurs ou des chocolats, je pense. Parce que comme c'est la dernière épreuve que l'on a eu à se mettre sous la dent, tu dois être le 6e épisode.
Ah ben je sais bien, j'ai écouté tout le monde, bien sûr.
Ah ben génial, ben merci.
Oui. J'ai écouté Sofiane, j'ai écouté Stéphane, j'ai entendu Nelson aussi qui en parlait, enfin voilà. Ouais.
Et je me dis, à ce rythme-là, là je vais avoir la deuxième partie du récit écrit de Scott Cornish, donc ça va être super intéressant, en anglais par contre, parce qu'il est anglais. Et je me dis, mais à ce rythme-là, si on n'a pas plus à se mettre sous la dent dans les semaines à venir, je vais être obligé d'interviewer le chef de la police au Maroc pour qu'il me raconte, qu'il me raconte des trucs.
Version, ouais.
Exactement. Mais n'empêche que, mis à part le côté petite blague, ça serait hyper intéressant. Et j'aimerais bien avoir le point de vue d'un coureur marocain, des gens de là-bas, pour avoir leur point de vue. Bon, bref.
Mais il y en a un, effectivement, qui a pris le départ en duo et qui est arrivé, ouais. Ouais,
bah, de toute façon, ça roule bien, donc, parce qu'il y a une équipe nationale et je pense que bien la sûr. Fédé nationale a enrôlé ses coureurs, donc ça roule très, très, très bien.
Ah bah,
tu
ça
es
roule bien, ouais.
Lyonnais d'adoption, ce qui veut dire que tu es né où?
Moi, je suis né à Niort, 79. Dans
cool.
La ville des assurances,
magnifique.
Des assurances et du divorce, paraît-il aussi. Là où on divorce le plus en France, j'ai appris ça l'autre jour. Puis ensuite, mes parents ont déménagé dans la région des Alpes, plutôt vers Gap, puis Annecy. Donc j'ai fait toute ma scolarité, de la 5e jusqu'à la terminale à Annecy, puis études à Grenoble, et puis Chambéry, où était le siège du magazine Terre Sauvage.
Ouais.
Donc je suis pas mal dans les montagnes, pas mal... C'est aussi pour ça que j'affectionne particulièrement les routes de montagne. Moi, en vélo, j'aime pas trop quand, enfin, je m'ennuie assez rapidement quand c'est plat. Donc moi, ce que j'affectionne le plus, c'est découvrir le Vercors, la Chartreuse, les Bauges, le Jura, les Alpes, encore plus à l'est, qui sont encore plus accidentées, vers le col du Lautaret, Col du Télégraphe, Galibier, tout ça, j'adore. Et puis, on a un beau terrain de jeu, en tout cas dans cette région-là. Et puis, vivant à Lyon, écoute, j'ai les Monts d'Or qui sont juste là, à portée de guidon. Je descends, j'ai la Saône, je la remonte. Et puis, en 5, 6, 7 kilomètres, je suis déjà dans les petits single tracks qui m'amènent à 600 mètres d'altitude au-dessus de Lyon, et il y a plein de petits sentiers partout dans la forêt qui serpentent et qui circulent entre les belles villas de la région lyonnaise, donc c'est très beau, c'est très beau.
Ben, c'est l'impression que j'ai eue, parce que évidemment j'ai suivi ta préparation sur Instagram et je voyais tes photos, et je me suis dit que tu avais bien roulé tout l'hiver, que tu avais pu accumuler pas mal de dénivelé quand même.
Et c'est
probablement ce qui t'a sauvé les miches au Maroc, en tout cas.
Oui, c'est ça, en fait. J'avais cet objectif-là, donc, depuis la fin de l'hiver, enfin, la fin de l'année 2019. Je crois que je me suis inscrit, c'était en novembre. Et puis, en fait, c'est Nelson qui m'a rappelé, parce que j'étais pas sur la liste d'attente à la base. Si tu veux, il y avait quand même pas mal de monde qui s'était intéressé à cette course-là. Donc, c'était une première édition. Beaucoup de gens s'étaient intéressés à cette épreuve. J'avais pas été sélectionné dans le premier lot initial, si tu veux, mais il m'a rappelé, ayant entendu le podcast que j'avais fait chez Arnaud Manzanini, qui racontait ma traversée entre Lyon et Oulan-Bator. Donc Nelson m'a rappelé en me disant ça me rappelle des choses au Kyrgyzstan. Écoute, voilà, si jamais t'es toujours chaud pour t'inscrire sur la MR, t'es le bienvenu. Donc dans la demi-heure, j'étais inscrit et puis. Et j'étais de nouveau sur le vélo avec un objectif en février. Et donc, ça m'a tenu tout l'hiver. Et j'adore rouler n'importe quand, en fait, n'importe quelle saison. Donc, on a la chance, en fait, d'avoir un terrain de jeu qui permet d'avoir du dénivelé aussi à la portée de guidon juste là en sortant. Quoi.
Ouais.
Ça, c'est assez appréciable.
Mais on reviendra sur l'Atlas un petit peu plus tard, parce que finalement, c'est l'aboutissement de ta pratique actuelle. Enfin, malheureusement, de ce qui nous reste de notre pratique actuelle. Tu m'as parlé de la Mongolie et d'un voyage de 9 mois. Alors, c'est peut-être indiscret comme question, mais ça ressemble à un moment de rupture dans ta vie. Ça ressemble à un moment de changement radical et un moment de nettoyage complet, un voyage de 9 mois. Mais si c'est trop intime et que tu veux pas répondre, tu me dis,
non,
c'est trop intime, je veux pas répondre.
Non, t'as raison. Bah oui, c'était un... Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, même sentimentale, où il fallait que je fasse un peu un break.
Parce que t'étais un tombeur, en fait. T'enchaînais
non.
trop.
Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est même pas ça. Mais non, en fait, il y avait de la distance à mettre. Il y avait des choses, une certaine sérénité, une certaine indépendance à retrouver à ce niveau-là, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et puis surtout, il y avait cette idée qu'à chaque fois que je partais en vélo pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, dès que tu commences à t'installer dans le rythme du voyage, c'est déjà le moment de rentrer. Et en fait, à chaque fois, je me disais, c'est trop bête, t'as envie de le faire au moins, je sais pas, 2, 3 mois, 4 mois de voyage. Donc vas-y, en fait, j'avais 35 ans, 36 ans à l'époque. Et je me suis dit, bon, allez, arrête maintenant, inscris une date dans le calendrier, et puis une fois que tu auras inscrit cette date et que tu en auras parlé à une personne, deux personnes, et que ça va faire la boule de neige et que tout le monde sera au courant que tu vas partir, tout le monde va t'en parler, ça va devenir évident, même pour les autres et donc pour toi.
Et donc, surtout, en fait, ça sera obligatoire.
Et voilà, t'auras plus le choix, quoi. Ensuite, tu pars. Et puis, en fait, j'avais vraiment envie de le faire, mais en fait, vu que bon, ben, j'avais pas encore passé le pas, si tu veux. Donc là, j'avais inscrit cette fameuse date du 19 février 2016. Et puis, je m'y suis tenu. Et le 19 février 2016, qui était un samedi, je suis parti de la place Mazagran de Lyon et je suis parti au sud chercher le col de l'Arche en Italie. Et là, c'était ma porte d'entrée vers le premier pays étranger, l'Italie. Et ensuite, j'ai dégringolé dans la plaine du Pô et c'était parti pour 9 ou 10 mois, enfin 10 mois d'aventure assez extraordinaire, hein, de mon point de vue. Chaque voyage en vélo était assez extraordinaire, même les courts, mais celui-ci était particulièrement appréciable vu qu'il a duré relativement longtemps. Donc, c'était quelque chose de. Ouais, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je suis encore aujourd'hui extrêmement content d'avoir. Fait ce voyage-là, sachant que je pense sincèrement que j'aurais regretté toute ma vie, en fait, de ne pas m'être dit j'en avais la capacité, j'avais le temps, j'avais l'opportunité. Et donc, ce que je conseillerais à tout le monde, alors surtout dans ces temps de confinement où on voit le printemps qui nous passe de l'autre côté de la fenêtre, là, peut-être que c'est le moment de se dire bon, écoute, on n'a qu'une vie, faisons les choses tant qu'il est encore temps, tant qu'on a envie, en fait. C'est une question d'envie, surtout, je trouve.
Donc, t'avais vraiment besoin de le dire à tout ton entourage pour finalement te forcer, pour éviter de passer pour une grande gueule finalement, et te dire j'en ai envie mais j'ose pas. Bah maintenant, faut y aller.
En fait, je m'étais préparé effectivement, mais dans ma tête, si tu veux, c'était assez clair que j'allais le faire. Mais même à 36 ans, on se dit indépendant, on se dit libre de tout lien. Mais en fait non, on a toujours besoin de l'aval et de l'assentiment des personnes qui nous sont proches, même des parents, hein, des frangins, des copains, de la famille élargie. Donc voilà. Mais bon, après c'était pas du tout pour montrer aux autres que je pouvais le faire, parce qu'en fait je me suis toujours senti capable en fait de faire ce genre de choses. Mais c'est plutôt pour me motiver moi-même en fait, pour me dire que j'étais pas tout seul dans cette aventure-là et que d'autres partageaient la connaissance de ce projet-là. Et une fois que tu partages ça, ben en fait tu peux en parler. Et puis finalement les gens te disent ah ben c'est super, hein, tu pars quand ? Et en fait tu te dis en fait c'est même pas une montagne pour d'autres. Ça avait l'air assez cohérent en fait dans mon chemin de vie quand j'en parlais à d'autres personnes. D'autres personnes m'ont dit mais pourquoi tu l'as pas fait avant finalement ? Donc je me suis dit bon ça va, c'est que c'est le bon moment, faut que j'y aille quoi.
Alors, j'ai l'impression que quand on explique un projet quel qu'il soit à quelqu'un, les gens ont toujours tendance à dire oh, c'est cool, mais au bout du compte, ils s'en foutent un petit peu quand même.
Alors c'est soit ils s'en foutent. Alors dans ce cas-là, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils me pensaient relativement capable de le faire. Donc ils se disent en fait c'est un projet comme un autre, c'est-à-dire que des projets de vie, certains vont partir à Ulaanbaatar pendant 10 mois, d'autres vont faire un enfant, d'autres. Vont se lancer dans un nouveau métier, d'autres, j'en sais rien, vont faire des projets professionnels divers et variés. Et en fait, on a tous nos vies qu'on mène à 1500 à l'heure en permanence. Donc voilà. Moi, après, ce que j'ai partagé, c'était un blog en fait de voyage où je publiais à peu près toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde qui suivait et qui avait ce petit rendez-vous hebdomadaire. Et certaines personnes qui me citaient des moments de mon passage quand je suis revenu en France et qui étaient bien au courant d'exactement tout ce que j'avais fait pendant mon voyage, même par moments mieux que moi quasiment, parce que j'avais certainement oublié des choses.
Ouais.
Et eux, ils ont un petit bout de la lorgnette, donc ils ont exactement les mots que j'avais employés, ils avaient exactement les photos que j'avais envoyées. Et moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus large, évidemment, vu que j'ai vécu la chose, donc... Ces petits points de détail, c'était rigolo de les partager, de les recevoir en retour à l'arrivée, quoi.
Pourquoi ce choix de la Mongolie ?
Écoute, la Mongolie, c'était pas mon choix initial, en fait. Mon choix initial, c'est que je voulais vraiment aller
en... Tu t'es perdu, en fait. Tu voulais aller en Inde et t'as trouvé...
J'ai tourné à gauche à un moment donné.
T'as tourné à droite au PMI, il fallait prendre à gauche, merde.
Exactement. Et Écoute, au début, je voulais aller en Iran au début. L'Iran, si tu regardes une carte du monde, c'est à peu près à 7000 km porte à porte de Lyon. Et puis 7000 km, moi j'avais déjà fait des semaines et des mois de même un mois de vélo, je tablais sur 2000 km par mois. Et en fait, 2000 km par mois, je me suis rendu compte que donc pour faire 7000 km avec un petit peu d'arrêt, ça allait me prendre 3-4 mois quoi. Donc, quitte à quitter l'appartement, enfin laisser la location de l'appartement, dire au revoir à tout le monde ici, ben 4 mois, c'était pas non plus gigantesque par rapport à ce que j'avais en tête comme un voyage au long cours. Donc j'ai multiplié la distance par deux. Donc j'ai fait comme en maths quand on était à l'école, j'ai pris mon compas en gros et puis j'ai regardé ce que où ça m'amenait 7000 km en plus quoi. Donc j'avais le choix, c'était soit effectivement ça tombait pile dans la Mongolie, soit l'Asie du Sud-Est, soit le Tibet, voilà. Donc ça m'a permis en fait d'aller jusqu'à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, et de reprendre le Transsibérien. Les Transsibériens, c'était quelque chose aussi que je nourrissais de faire depuis quelques années. Donc ça m'a permis finalement de faire deux aventures en une. Donc de rouler les 15 000 km jusqu'à Oulan-Bator et puis de reprendre le Transsibérien entre Oulan-Bator, Oulan-Udé, Irkoutsk, jusqu'à Moscou, et ensuite de reprendre des bus à travers la vieille Europe jusqu'à Lyon, enfin jusqu'à Mulhouse. Ensuite j'ai continué à vélo jusqu'à Lyon. Mais c'était pas mon projet initial, mais voilà, l'Iran c'était vraiment un pays que je voulais absolument découvrir parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'Iran et mes parents y étaient allés en 79, juste avant la révolution. Je crois qu'ils étaient tombés sur la frontière fermée parce qu'il venait d'y avoir la révolution islamique en 79. Et une fois, mais la deuxième fois, ils n'avaient pas pu accéder. Donc il y avait aussi cette histoire familiale de l'Iran qui me trottait un peu dans la tête. Donc, et je suis très content d'y être allé. C'est un pays extraordinaire. Donc, je suis resté un mois et demi là-bas. C'était une pause assez longue. Où j'avais décidé pendant 3 semaines de laisser le vélo et puis de me promener. J'avais été hébergé dans une famille pendant une semaine dans la région de Shiraz, un peu au sud du pays, et au sud d'Isfahan, bien au sud de Téhéran, si tu veux. Et ouais, c'était un peu une découverte extraordinaire, en fait, ce pays. C'était vraiment bien.
Là, il y a un petit silence parce que ça me rappelle que il n'y a pas beaucoup de pays qui nourrissent une frustration chez moi. Et l'Iran, pour le moment, c'est le pays qui m'échappe. Je voudrais aller en Afghanistan et en Irak. Bon, visiblement, c'est reporté pour des raisons évidentes. L'Iran m'échappe depuis... Ça va faire 10 ans. D'ailleurs, la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on avait une connaissance en commun. Fabien. Et c'était pendant un documentaire, la création d'un documentaire sur le métal extrême. Et je voulais faire un truc sur les groupes dans des pays ou des villes un petit peu atypiques. Et du coup, j'ai été rentré en contact avec des groupes de métal et de black metal à Téhéran. Et un jour, en reportage aussi pour un magazine en Suisse, je reçois un coup de téléphone. J'étais en train de faire une photo, mon téléphone sonne. Je réponds et au bout du fil, c'était le chanteur ou le guitariste d'un groupe à Téhéran qui m'appelait. Et ils ont toute mon admiration parce que faire ce genre de musique en Iran, même si c'est un pays génial à plein d'égards, il y a quand même un système politique un petit peu raide avec les musiques extrêmes.
Oui, avec n'importe quelle musique qui ne soit pas une musique religieuse, ouais, tout à fait.
Bah, il peut y avoir du métal chrétien, mais en tout cas, du métal islamique, à ma connaissance, j'en ai jamais écouté, donc. Donc, je sais pas encore, il faudrait peut-être que je me penche sur la question, mais en tout cas, du métal chrétien, il y a aucun problème. Et même d'ailleurs, petite parenthèse, au Hellfest, qui est annulé cette année, il y a un espace prière pour les groupes de métal chrétien.
Ah oui, d'accord.
Donc ça fait vraiment partie des genres et des sous-genres du métal. Donc il y a cette dominante religieuse éventuellement, enfin même valable dans toutes les religions, qui fait partie du métal. Voilà. Ça, c'était la pause Iran parce que, bah, ouais, ça reste ma frustration. Et la semaine dernière, j'ai dit à ma femme, tiens, j'irais bien rouler un petit peu en Iran l'année prochaine si j'ai le temps. Donc voilà.
Ouais, en fait, en 2016, c'était l'année suivante. En fait, le président Hollande à l'époque, en 2015, s'était rapproché du président Rouhani, en fait, iranien, et avait signé les accords du nucléaire,
ouais.
Qui permettaient de remettre l'Iran dans les pays fréquentables, entre guillemets.
Ouais.
Et donc, il y avait une sorte d'ouverture qui était en train d'être faite au niveau de l'Iran, ce qui m'a aussi poussé à y aller sans aucune appréhension.
Ouais.
Donc, on était les bienvenus, hein, je veux dire, là-bas, j'ai pas eu du tout de problème pour avoir quoi que ce soit comme visa, comme il y a aucun problème. Mais en fait, il y a pas beaucoup de monde. Enfin, il y a beaucoup de cyclos évidemment qui le traversent parce que l'Iran c'est un pays central sur la planète. Si vous regardez une planisphère mondiale, l'Iran c'est la plaque tournante, quoi. C'est tout passe par l'Iran. C'est vraiment le centre du monde, en fait, un peu comme la Turquie finalement, où c'est un peu une plaque entre l'Asie, la Russie, l'Europe, et puis l'Afrique au sud. Mais et effectivement, donc ouais, il y avait ce sentiment de possibilité d'y aller sans avoir trop de craintes sur une éventuelle admission dans le pays. Et puis sur place, les Iraniens sont évidemment extrêmement hospitaliers. En fait, ils ouvrent les portes, ils ouvrent la possibilité de les rencontrer, même les hommes comme femmes. Donc c'est très très agréable, en fait, comme relation qu'on a avec les habitants des campagnes, vu que majoritairement les cyclos randonneurs voyagent dans les campagnes quand même, pas trop dans les villes, vu que c'est un petit peu compliqué, mais enfin.
Il me semble qu'ils ont une conduite un peu comme au Liban ou dans d'autres pays, ils ont une conduite un petit peu spéciale.
Oui, alors à Téhéran, effectivement, c'est un peu l'anarchie. Par contre, lorsque tu te promènes, lorsque tu roules, en fait, quand tu traverses les grandes étendues de l'ouest iranien, en fait, il y a tellement personne, si tu veux, que c'est comme une grande piste cyclable magnifique dans des paysages incroyables. Tantôt désertique, tantôt agricole, vu que c'était quand même le printemps. Moi, la saison à laquelle j'ai traversé cette région du monde, c'était au printemps 2016. Donc, il y avait des coquelicots partout. Il y avait les champs de pavots. Il y avait les gens dans les campagnes qui travaillaient la terre avec les tracteurs ou avec les herses. Il y avait quand même pas mal de monde, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Au niveau circulation, on était quand même relativement tranquille dans cette région-là.
Paraît-il que les Iraniennes sont parmi les femmes les plus belles du monde.
Ouais, bah alors il faut effectivement. Moi, j'ai rencontré une Iranienne là-bas. C'était où ? C'était à Téhéran, qui était magnifique, effectivement. Puis d'autres, évidemment, dans la rue. Mais bon, en tant qu'Européen non plus, j'étais assez discret quand même parce que c'est quand même une république. Qui est dur, qui est très dur pour ces femmes, même pour ces hommes, hein, mais voilà, il y a des interdictions qui sont quand même qui sont pas là uniquement pour maintenir l'ordre, et du coup c'est assez dur, quoi. La vie dans l'espace public est très réglementée. Donc ce qui était intéressant, c'était justement de se faire accueillir dans l'espace privé, c'est-à-dire d'ouvrir les grandes portes. Souvent dans les campagnes iraniennes, il y a des propriétés dont les murs sont très hauts, 2,50 m, 3 m. Et en fait, c'est pour échapper au regard extérieur, finalement.
Ouais.
C'est pour se protéger des regards extérieurs, pour pouvoir vivre à l'intérieur comme bon leur semble. Donc les femmes, une fois que le portail est fermé, elles s'habillent comme à l'européenne, quoi. Jeans, cheveux détachés. Et voilà, tout le monde, hommes comme femmes, font... tout le monde est accueilli de la même façon, quoi. Donc c'était intéressant aussi d'avoir cette chance-là de pouvoir pousser les portes closes et rentrer à l'intérieur de l'intimité du peuple iranien. Ça, c'était hyper intéressant. Alors je vais pas dire que j'ai tout compris, évidemment. J'ai aujourd'hui encore beaucoup plus de questions que je n'avais lorsque je suis arrivé en Iran, mais voilà, ça m'a ouvert une petite, un petit voile, c'est le cas de le dire, sur, sur l'Iran et sur la culture iranienne. C'est un pays vraiment que je conseille à, aux cyclo-voyageurs. C'est une étape incontournable vers l'Est.
Bah, si tu avais tout compris à une culture ancestrale de plusieurs milliers d'années, je pense que tu serais très fort. Ça me fait penser à ces mecs qui prétendent tout comprendre de la situation en Israël ou dans d'autres pays et qui te la résument en deux minutes alors que ça fait une centaine d'années que c'est le bordel là-bas.
Quand
on me dit non, mais t'inquiète, je vais t'expliquer, c'est facile, tu vas voir. Là, je me dis, bon, c'est bon, j'ai affaire à une anguille à la broche parce qu'en fait, il a rien compris du tout.
Ouais.
Les situations complexes et les cultures comme ça, c'est, enfin bref, on va pas non plus faire l'éloge de la de l'Iran parce que j'en connais un qui m'écoute, Cyrus, que tu connais peut-être, l'immonde Cyrus McCain a du sang iranien, il va encore plus se sentir, donc c'est pas non plus la peine de trop l'encenser parce qu'il va rouler encore plus vite qu'il ne le fait déjà, même s'il est cramé. Apparemment il abuse de Zwift en ce moment, donc il est un petit peu cramé, m'a-t-on dit, donc tant mieux. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es revenu? Par exemple, moi je me souviens quand on est allé au Japon, on m'a dit tu vas voir le Japon, tu comprends rien, c'est écrit en japonais sur les panneaux, ça fait un choc culturel. Et ben moi le choc culturel je l'ai eu en rentrant à Londres et à Gare du Nord quand je suis rentré.
Ouais.
Et toi le choc culturel, est-ce que t'en as eu un et à quel moment tu l'as eu? À quel moment tu t'es dit ok je suis pas chez moi?
Choc culturel, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu un qui me vient en tête là, c'est quand tu traverses les plaines du Kazakhstan qui sont quand même relativement plates. Hein. T'as laissé les montagnes du Pamir derrière toi, le Tadjikistan, les montagnes qui ressemblent un petit peu aux Alpes par moment du Kyrgyzstan, que la Silk Road Mountain Race d'ailleurs a à cœur d'explorer via la Silk Road Mountain Race de Nelson. Tu roules sur des paysages extrêmement larges, et puis tu arrives sur la frontière chinoise, et puis là il y a des skyscrapers, quoi, il y a des gratte-ciels, et là tu comprends pas, tu te dis pourtant c'est le même territoire, géographiquement c'est le même endroit, mais il y a une ligne de la frontière, et puis voilà, c'est Tu passes d'un monde à l'autre sans transition, et là tu comprends plus rien, quoi. Même avant tu comprenais pas trop parce que c'était l'alphabet cyrillique, et puis là d'un seul coup c'est du chinois, donc tu te laisses porter, tu comprends plus les sonorités, tu comprends plus rien du tout, donc c'est une douce musique aux oreilles en fait. Moi j'adorais ça finalement, c'est ça qui m'a beaucoup reposé dans ce voyage là c'est que à partir du moment où j'ai passé la frontière italienne, à la rigueur, l'italien, je comprenais un petit peu, mais ensuite le turc, l'iran, enfin le perse, le farsi, le tadjik, l'ouzbek, tout ça, j'ai aucune notion de ces langues-là, donc finalement c'était hyper reposant de ne pas comprendre. Et le choc culturel majeur que j'ai eu, c'est lorsque je suis rentré en France, et en fait ça m'assaillait les oreilles, ça me torturait les oreilles de tout comprendre, même si tu ne veux pas comprendre, t'entends tout. La vulgarité que j'avais pas entendue depuis un an. Peut-être que les gens étaient vulgaires aussi dans les pays que j'ai traversés, mais.
Oui, mais tu comprenais pas.
Je ne comprenais pas. Donc en fait, c'était étranger à mes oreilles, la vulgarité. Ou le sarcasme, ces choses-là, les petites phrases mesquines, ces choses-là, en fait, qui font partie de la vie, hein, tout simplement. Mais j'ai mis du temps à m'y réhabituer, finalement. Parce que d'un seul coup, je pouvais pas m'empêcher de tout comprendre de voilà ce qui m'entourait, quoi. Et en fait c'est ça le plus grand choc culturel, c'est le retour en France. Ouais, c'était un peu pendant une semaine ou deux je me suis dit tiens, c'était fatigant, en fait c'était vraiment fatigant de tout comprendre.
En fait tu sais des fois on parle de lâcher prise, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais finalement c'est un petit peu ça, parce que à ne rien comprendre, bah tu te laisses porter et tu apprécies les choses différemment.
Ouais, complètement. Et puis bon, dans un voyage à vélo, la seule chose un peu difficile que j'avais à vivre, c'était de planifier la fameuse chasse au visa pour passer d'un pays à l'autre. Donc c'était pas non plus intellectuellement extrêmement compliqué. C'était quand même chaque jour se faire plaisir sur la route, ranger le bivouac, voir un petit peu les routes qu'on allait emprunter pendant la journée, à 16h, 17h, chercher l'endroit de bivouac adéquat pour passer la nuit, et puis recommencer quoi tous les jours. Donc c'est vrai qu'on se laisse bercer. Au bout d'un mois, je crois que je suis vraiment rentré dans le rythme du voyage. Et ensuite, c'est vrai que ça déroule assez lentement, et c'est très plaisant en fait, effectivement, de ne pas avoir à trop réfléchir, juste aux essentiels quoi. Trouver un endroit pour dormir, assurer la sécurité, manger bien évidemment, rouler sur des routes qui nous semblent intéressantes et jolies et belles. Donc ça fait plutôt partie des expériences agréables de la vie, ça, les voyages à vélo.
Ça fait un petit peu, là, ce que tu viens de me dire, ça fait un petit peu pyramide de Maslow, tu sais, où t'as une pyramide, forcément. Et la base, c'est, par exemple, manger, avoir un toit. Et plus tu montes dans la pyramide, plus tu retrouves des choses moins essentielles. Mais du coup, toi, ton truc, c'était manger, dormir et après faire du vélo. Mais ça arrivait après. Ce qui veut dire que t'es revenu à quelque chose de carrément essentiel, vraiment à l'essence même de la vie, parce que ton seul souci c'était manger, dormir et après rouler, parce que si t'avais pas ces deux premiers là, tu pouvais pas rouler.
C'est ça, exactement. En fait, le vélo devenait un moyen de transport en fait, hein. Moi j'adore faire du vélo de toute façon, mais c'est sûr que là c'était plutôt un voyage qui utilisait le vélo comme moyen de locomotion plutôt que de faire du vélo, parce que si jamais je voulais faire du vélo, je pense que je serais parti en bikepacking, quoi, c'est-à-dire vraiment avec des sacoches légères, strappées au vélo, et le but du jeu, ça aurait été de faire de la route, 150 km par jour, j'en sais rien, mais ce qui était moins le cas là, tu vois, là, c'était vraiment de voyager, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, prendre le temps, évidemment passer par des routes qui me plaisaient et qui m'attiraient, quoi. Moi, je suis passé par toutes les montagnes entre les Alpes et puis les montagnes de l'Altaï mongole. J'ai fait tous les massifs montagneux possibles, quoi. Parce que je trouve que c'est là où moi je m'éclate le plus, c'est là où on prend de l'altitude, de la hauteur, hein, dans tous les sens du terme. Il y a de la vue, il y a des belles descentes, il y a de la profondeur dans le paysage. Et puis surtout, tu rencontres des gens qui vivent dans ces milieux-là. Donc c'est des milieux reculés, assez durs. Donc les gens sont marqués par ces territoires-là, donc c'est ça que j'aimais bien, moi. Ça, effectivement, rencontrer toute cette ribambelle de gens tout au long, disséminés sur 15 000 km, qui en fait avaient pas mal de choses en commun, quoi. Entre l'éleveur de bêtes de yaks en Mongolie et l'éleveur de moutons dans la plaine du Pô, ou dans les basses vallées alpines là, près de Cuneo, évidemment il y a des différences, mais enfin bon, ils ont les mêmes priorités, quoi.
Oh, ils ont les mêmes problématiques.
Même problématiques, et c'était intéressant de faire le lien entre toutes ces personnes-là, ouais.
Est-ce qu'il y a une différence entre voyager et se déplacer, à ton avis, selon toi?
Écoute, tu me prends de court, là. J'ai 4 heures, c'est ça?
Non, s'il te plaît, les blagues comme ça, vous avez 3 heures, on va laisser ça pour Facebook et les déclarations moisies.
Écoute, se déplacer... Bah, voyager, moi là c'était un vrai voyage, dans le sens où il y a vraiment un but d'emblée, si tu veux, d'aller vers Oulan-Bator, vers la place Gengis Khan de Oulan-Bator. C'était pas uniquement se déplacer, c'était pas uniquement c'était pas uniquement utilitaire, quoi. Là c'était parce qu'en fait me déplacer entre le point A et le point B, j'aurais pu le faire en ligne plus droite que ce que je n'ai fait. Là il y avait vraiment voyager, c'est-à-dire tous les jours en fait tu te poses la question, enfin une fois par semaine en gros, quoi, tu te poses la question de savoir ce que la semaine prochaine va être en termes de d'itinéraire. Donc c'est assez passionnant. Moi j'adore les cartes, alors j'empruntais des cartes, ou on s'échangeait des cartes avec les gens qui revenaient dans l'autre sens. On se donnait des tuyaux. Donc, c'était hyper intéressant de planifier les itinéraires comme ça, de semaine en semaine. Et puis ça avance vite, quoi. C'est sûr que en une semaine, tu fais 500 bornes, quoi. Donc, c'est une demi-France, quoi. Donc, géographiquement, bah, tu perds un demi-fuseau horaire toutes les semaines, quoi. Donc c'est sympa de se déplacer, de voyager du coup pour le coup, de cette façon-là, ouais.
Alors, la différence que je verrais, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, tu es parti à la rencontre des gens, t'es allé un petit peu plus dans l'intimité, tu as vu comment les gens vivent vraiment et tu t'es pas contenté d'une version carte postale, ce qui serait exactement l'opposé du déplacement où on va dans un endroit, tu vas, je sais pas, en Thaïlande ou n'importe où, un peu touristique, où t'as une vision complètement erronée de la réalité. Et alors que bah tu reviens, t'es content, ouais, je suis allé en Thaïlande, je suis bronzé, regarde, j'ai ramené un collier de coquillages et des tresses, mais en fait tu reviens, désolé pour l'expression, mais on revient aussi con qu'on est parti. Alors qu'avec un voyage, ça remet plein de choses en perspective. On questionne un petit peu nos habitudes, notre mode de vie, on se rend compte que incroyable, les gens ne vivent pas comme nous et ils réfléchissent pas forcément de la même manière. Pour le meilleur ou pour le pire, éventuellement.
Ouais.
Et alors que si tu vas dans un Club Med, si en période de confinement ou pendant les vacances d'été, tu vas dans un bled en Bretagne ou ailleurs et que tu retrouves tous les gens de ta ville ou de ta région, au bout du compte, c'est un peu con, c'est vraiment un déplacement. C'est juste un déplacement dans l'espace, mais t'emmènes ton mode de vie avec toi. C'est un petit peu dommage.
Ouais, c'est sûr. Après, tu sais, il y a des moments où moi j'étais en voyage, donc pendant ce voyage-là, et j'avais beaucoup de sollicitations, notamment en Iran, où c'est culturel en fait de demander, de proposer son aide aux voyageurs. Donc ça peut être de proposer de la nourriture, mais ça peut être surtout ce que j'ai vu moi, c'est de l'hébergement, qui est différent encore qu'en Turquie, les gens sont hyper accueillants. Mais ils vont pas forcément t'accueillir chez eux. Ils vont t'offrir des thés, ils vont t'offrir une discussion, ils vont t'offrir des sourires, voilà, une présence, quoi. Mais en Iran, ils t'offrent vraiment l'accueil. Donc, ils veulent que tu dormes chez eux. Mais il y a des moments, en fait, où c'était un petit peu trop. Donc, moi, j'avais besoin de retrouver ma bulle et de me retrouver moi-même le soir pour pas avoir à raconter mon histoire tous les soirs, parce qu'en fait, c'est le monde... tous les soirs de redire la même chose. Moi, j'ai qu'une seule vie, quoi. Donc, forcément, je raconte toujours un peu la même, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis ici sur mon petit vélo. D'ailleurs, la réaction des gens, c'était, mais pourquoi tu prends pas une voiture comme tout le monde? Enfin, je comprends pas pourquoi t'es sur un vélo. L'Iran, c'est beaucoup trop grand. Ne serait-ce que l'Iran, c'est trop grand. Mais alors, la terre entière, c'est beaucoup trop vaste. On prend une voiture, ça ira plus vite, quoi.
Puis en plus, à l'époque, voilà. Tu pouvais pas leur sortir parce que je suis éco-responsable. C'était pas encore à la mode.
C'était pas encore, ça commençait à venir, mais en tout cas, ouais, non, il y a quand même eu des moments où, pour répondre à ta question de l'ouverture, de toute façon, on est obligé d'être, on est forcément vulnérable parce que ouvert à tout le monde lorsqu'on voyage tout seul, on est forcément ouvert à la rencontre, quoi, parce que les gens nous voient comme pas comme un groupe, quoi, même si on est deux, on commence à être un groupe, donc les gens peuvent avoir la peur d'interférer dans ce groupe déjà constitué, alors que lorsqu'on est un tout seul, les gens viennent directement vers toi, ils interfèrent pas, quoi. De toute façon, t'es tout seul, donc. Donc c'est ça aussi que j'ai adoré moi dans ce voyage solitaire entre guillemets, seul, c'est que les gens viennent hyper facilement vers toi et il y a pas de crainte. Et c'est une vraie chance, en fait, de pouvoir répondre positivement à des sollicitations d'hébergement ou ce genre de choses. En Iran, c'est vrai que ça m'a beaucoup nourri, quoi. J'ai beaucoup appris parce que j'étais ouvert aussi à ça, quoi. C'est ça que j'étais allé chercher, finalement, à travers ce voyage à vélo.
Est-ce que en Iran, on va dire spécifiquement en Iran, t'as repensé à l'usage du monde de Nicolas Bouvier?
Écoute, je l'avais emporté dans mes valises parce que Alain Puiseux du magazine 200 m'avait demandé de faire une chronique dans tous les numéros du magazine 200, qui est un trimestriel, pendant mon voyage. Donc j'ai commencé en avril 2016 et puis ça m'a emmené jusqu'à juillet 2017 parce que j'ai publié 5 épisodes. Et donc Alain m'avait dit, écoute, t'as qu'à emmener l'usage du monde dans tes soutes, et puis sans en faire du tout une chronique ni un parallèle, parce que je ne suis pas Nicolas Bouvier. J'ai pas ce talent que lui a, mais au moins de faire voyager ce livre avec toi, et puis peut-être de t'en inspirer par moment dans les chroniques que tu feras pour le magazine 200. Mmh. Donc oui, j'ai beaucoup pensé, parce que je le lisais très régulièrement en fait, le soir au bivouac, pour notamment tous les 3 mois, quand je me posais dans les cafés pour écrire mes chroniques pour le magazine, je le lisais, ouais. Et c'était intéressant, parce que lui avait eu la possibilité d'aller jusqu'en Afghanistan, justement. Et puis, à un moment donné, je sais que nos routes se sont séparées vers Shiraz, justement. Lui a continué vers le sud-est. Et moi, je suis monté au nord-est, ouais. Ouais. Vers le désert du Kizilkoum, en Ouzbékistan. Tandis que lui allait vers le Khyber Pass, en Afghanistan.
Ouais. Sacrée épopée, d'ailleurs. Je recommande à tous de le lire. Tiens, je vais sortir ma dernière réplique méchante. Pourquoi tu n'as pas écrit de livre ? Parce qu'aujourd'hui, en pleine période de confinement, t'aurais pu faire la tournée des médias comme Sylvain Tesson et vendre tes salades à qui voulait l'entendre.
Ouais.
Parce que lui, je sais pas ce qui lui a pris, mais on le voit partout.
Hein. Ah ben oui, ben avec ses chroniques.
Là, c'est, oh, oui, bien sûr. C'est horrible.
Ben oui. Ouais, bon, après, moi, je reconnais qu'il a quand même beaucoup de talent, cet homme-là. Il est un peu énervant, parce que j'en discutais avec un ami tout à l'heure, avec Yann Gobert, d'ailleurs, qui était sur l'Atlas Mountain Race avec moi. On s'est eu tout à l'heure, hein, ça me faisait plaisir d'entendre sa voix, j'ai l'impression d'être au Maroc à nouveau. et on parlait de Sylvain Tesson, effectivement, des chemins noirs, et de son dernier bouquin qui était La Panthère des Neiges, que je n'ai pas lu, mais voilà, il me disait que c'était un petit peu un peu moins réussi selon lui, ouais. mais quand même il est capable d'avoir une réflexion, surtout sur les chemins noirs. Moi, j'ai pas mal apprécié ses réflexions personnelles. C'est quand même éclairant, quoi. Effectivement, là, je sais qu'il est un petit peu présent, beaucoup présent sur les réseaux. Bon, en tout cas, bref, pour revenir à ta question, qui est celle de savoir pourquoi je n'ai pas écrit de livre, sur ce voyage-là, en fait, à la base, je voulais même pas écrire de blog. C'est-à-dire que, vu que mon métier, c'est d'écrire des articles de journaux dans le milieu du voyage, la découverte du monde et du vélo, je voulais pas emmener du travail avec moi, en fait. Je voulais vivre pour moi et ne pas me travestir mon regard d'une manière ou d'une autre. Je voulais vraiment vivre le voyage d'une manière différente que celle que j'avais l'habitude de vivre. Donc au début, j'avais dit à tout le monde, non mais vous laissez tomber, vous aurez de mes nouvelles le jour où je reviendrai, quoi. Donc dans 10 mois, dans 1 an, quoi. Et puis finalement, je me suis dit, c'est quand même dommage. À travers l'écriture, ça permet quand même d'apporter une réflexion, du recul aussi sur ce qu'on vit, et de toute façon, c'est ce que j'aime faire. Donc j'ai accepté, en fait, pour moi, hein, d'écrire ce blog et donc d'écrire aussi pour le magazine 200 tout au long du voyage. Mais je voulais pas en faire un produit commercial, si tu veux. Voilà, je voulais que ce voyage reste simple dans sa réalisation et dans sa retranscription. Donc, j'ai jamais eu l'envie, en fait, d'écrire un livre, même 3 ans ou 4 ans après, si tu veux. C'est quelque chose qui était. J'aurais l'impression de trahir mon voyage, quoi, en faisant ça. Voilà.
Ok. Bien, eh bien, nous allons clore le chapitre voyage à travers le monde. Et maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi, après tous ces voyages hors organisation, tu t'es dit, tiens, moi, je vais faire une course, parce que j'ai lu, évidemment, avec attention ton récit. Et tu me dis à un moment, c'est la première fois que je prends le départ d'une course. Alors, pourquoi tu t'es dit, pourquoi aller prendre le départ d'une course, t'embêter, si on peut dire, avec une épreuve, alors que tu pouvais prendre ton petit vélo, aller au Maroc, te taper l'Atlas en long, en large et surtout en travers, alors ouais. Que là, bah, pourquoi ?
Il a fallu rouler beaucoup, ouais. Alors en fait c'est un engrenage, hein. C'est un mauvais jeu de mots, le vélo.
C'est pas de ta faute, en fait, d'accord.
Non, c'est je me suis laissé
embrigader.
En fait, j'ai commencé donc avec des voyages à vélo plus ou moins longs, puis la Mongolie, puis j'ai rencontré Alain il y a 5 ans. J'ai commencé à baigner dans le milieu du magazine 200 et donc lire les articles d'autres que moi qui faisaient des raids, des compétitions aussi. J'ai découvert la French Divide, j'ai découvert toutes les compétitions dans le nord de la France, tout le milieu du gravel. Enfin voilà, on parle quand même beaucoup de ça. Donc j'ai découvert ce milieu-là avec intérêt. Et puis avec Luc Royer de Chilcoot, j'ai découvert la Born to Ride, donc qui n'est pas une compétition, mais qui est quand même de la longue distance. Il faut réaliser, enfin, il faut rouler 1 200 km en 5 jours. Donc moi, ma première participation, c'était l'année dernière, où on a eu des conditions assez dantesques pour réaliser ces 1 200 km. Et puis est arrivé aussi la Silk Road Mountain Race de Nelson Trees, donc au Kyrgyzstan, qui est complètement dantesque, qui est à ce que beaucoup de personnes disent l'une des compétitions de vélo gravel ou VTT les plus difficiles au monde. Donc ça me passionnait aussi de lire le récit de J. Peter Vary et d'autres sur ces épreuves-là. Et puis est arrivé dans ma boîte mail, parce que j'étais abonné aux différentes newsletters, cette première édition de l'Atlas Mountain Race au Maroc, qui est un pays que j'affectionne beaucoup, vu que j'y suis allé 5 ou 6 fois, 4 ou 5 fois. Et j'avais déjà traversé, en fait, pendant 5 semaines de Tanger jusqu'à l'oasis au sud, enfin une des oasis au sud d'Agadir avec mon père en 2017, en novembre. Et c'est un pays qui m'est toujours resté comme un pays extraordinaire à découvrir à vélo. C'est vraiment assez extraordinaire avec tout le nombre de pistes qu'il y a, le nombre de petites routes, la topographie qui est sans arrêt changeante, le paysage qui est un peu comme en France, tu fais 50 km, ça change. Et donc j'ai voulu découvrir le Maroc dans ces conditions-là aussi. La compétition en elle-même, si tu veux, ne me c'est pas ça qui m'intéressait au plus haut point. Je suis pas venu là-bas pour faire un temps, si tu veux, mais pour aller au bout de l'aventure. Et j'aimais bien l'idée d'objectif, en fait. Voilà, il y avait 1 150 km à faire en 8 jours maximum. Et voilà, entre Marrakech et Sidi Rabat sur la Serra. Et je trouvais ça. Ils ont su me faire rêver aussi avec les différentes vidéos. Donc ils n'ont pas mis longtemps à me convaincre, en fait, de m'intéresser à ce genre d'épreuve, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce que tu... Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et puis ça transpire après tout ce que tu viens de nous raconter. Tu es expérimenté, tu sais rouler, tu sais te préparer, tu sais choisir ton vélo. J'ai lu que tu avais un proto
Décathlon.
De chez Decathlon, voilà.
Ouais,
Mais
ouais.
nous y reviendrons tout à l'heure un petit peu succinctement. Ça a changé quoi par rapport à tes voyages? L'idée de te dire, je prends le départ d'une course, qu'est-ce que ça changeait justement dans la préparation physique ou dans la préparation de ton matériel, le choix de tes équipements? Est-ce que t'as pas favorisé le poids ou éventuellement l'efficacité à un moment donné? Qu'est-ce que ça a changé?
Ouais, en fait, si tu veux, ça a changé. Dans la préparation physique, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Enfin, quand je fais du vélo, je me dis jamais que je fais du sport. Moi, je me promène, je fais un peu plus de vélo que prévu pour ce genre d'épreuve, parce que je sais qu'il va falloir tenir physiquement. Mais c'est pas comme si je faisais du fractionné ou je me faisais 4 fois la même côte ou ça, je suis incapable de faire ça. Je fais pas du vélo pour ça, quoi. Donc, je vais voir un peu ailleurs. Je bascule dans la Loire. Je vais voir. Je fais des sorties plus longues, mais voilà, j'ai jamais l'impression de faire du sport, quoi. Si tu veux, j'ai pas de home trainer, par exemple, chez moi actuellement, quoi. Mais ça me manque pas. C'est pas de faire tourner les roues qui me ou les jambes qui me motive le plus. Moi, c'est le vélo dans son environnement extérieur, quoi. Donc, après, évidemment, pour le poids, je m'étais mis au backpacking, je sais pas, 2 ans avant, donc j'étais quand même pas mal équipé. J'ai fait appel à l'équipementier Vaude, qui m'ont passé pas mal de matos à tester. Donc j'étais quand même pas mal équipé. Mais la vérité, c'est qu'en fait, je viens quand même du cyclotourisme avant le bikepacking et que j'étais un petit peu trop lourd, en fait. Mais j'arrive pas, quoi. Culturellement, j'arrive pas à enlever des trucs de mon paquetage, quoi. Il y a des choses que je prends parce que je peux pas faire autrement psychologiquement. En fait, j'y arriverai si je l'ai, j'y arriverai pas psychologiquement si je les ai pas. Donc je préfère les avoir et porter un peu plus lourd que ne pas les avoir et que ça me trotte dans la tête.
Comme quoi, par exemple?
Moi, j'avais une pharmacie qui était un peu trop grande. J'avais des pièces de rechange que j'aurais pas forcément dû prendre, ou même des multi-outils, plus d'autres outils qui auraient pu être, voilà, ça aurait pu être mieux réparti en termes de poids, quoi, en termes de choix de matériel. Non, sinon, qu'est-ce que j'avais? J'avais beaucoup trop de bouffe au début, quoi. Alors que le Maroc, il suffit d'aller sur la place Jemaa pour acheter tout ce qu'il faut, mais j'avais apporté trop de, j'avais 1 kilo, je crois, de mix de graines, tu sais là. Et en fait, j'en ai donné à Yann avant le départ, parce que voilà, enfin, j'ai fait ma petite distribution parce qu'en fait, j'avais pris beaucoup trop de choses. Mais voilà, c'est sûr que après l'expérience d'un voyage au long cours de 1 an, j'ai du mal à même si on me dit que je pars sur 10 jours. Même là, j'ai mis 6 jours là, pour la Atlas Mountain Race. Ben, je sais ce que ça peut être en fait d'être paumé au milieu de nulle part et de pas avoir la pièce qui va bien ou la nourriture qui sauve psychologiquement, enfin mentalement, parce que c'est quand même là-dessus que ça se joue hein, majoritairement ce genre de course, c'est plutôt sur le mental quoi. Enfin lorsque tout va bien au niveau technique, au niveau matériel. Hein. Mais voilà, c'est sûr que je portais peut-être 1 ou 2 kilos de trop par rapport à ce qui aurait été nécessaire. Mais voilà.
Bon, ça va, 1 ou 2 kilos, ça va quand même.
Ça va quand même. Oh, ouais,
mais c'est vrai
bon,
que cette grosse clé à molette, t'aurais pu éviter de l'emmener. Ou...
Exactement. La clé et le treuil, et les treuils.
Oui, ça, le treuil de toute façon et la chaîne de 50 mètres, c'est, voilà. On sait jamais.
On sait jamais. Ça peut faire une encre dans les descentes quand tu l'as.
Ah, puis tu pouvais l'accrocher aux cheveux de Yann Gobert. Ça, c'est quand même inestimable.
Ça, c'est sûr. Alors, ça, ouais. Ouais. Mais Yann, lui, ouais, j'ai rencontré là-bas ce gars-là. Il est vraiment super. Ça fait partie des belles rencontres qu'on fait lors de ces événements. C'est vraiment sympa. Il y a des personnalités qui cliquent directement, quoi. Et ça l'a fait instantanément, quoi. Avec Yann, on s'est rencontrés voilà, le premier jour, puis le deuxième jour. Puis en fait, on se rendait compte qu'on roulait de la même façon parce qu'on avait les mêmes attentes par rapport à cette course-là. C'était juste d'arriver au bout et de se faire vraiment plaisir, en fait, de prendre du plaisir à rouler. Et alors, on roulait beaucoup, hein. On roulait 15, 16, 17 heures par jour. On dormait peu, 4-5 heures. Ben, 4-5 heures, tu vas me dire, c'est 2 fois ce qu'a dormi Sofiane dans l'intégralité de la course, mais lui, elle l'a gagné. Nous, on est arrivé 81e et 82e, si tu veux. Donc, évidemment, on n'a pas les mêmes objectifs. Mais voilà, ouais, ça fait partie des personnes qui font plaisir à rencontrer sur ce genre de compétition, effectivement.
Dans ton récit, tu dis à un moment donné, j'étais à cran, et tu expliques même que tu as pleuré. Alors, ça veut dire quoi, être à cran? Et comment on arrive à se mettre dans cet état-là?
Alors, moi, c'était une première, hein, enfin, une deuxième, on va dire, parce que la première, c'était l'année dernière sur la Chilkoot Born to Ride de Luc Royer, départ de Montmédy à la frontière belge. On est à peu près 180, dans 280, je crois, à prendre le départ. Il y a la queue de la tempête qui remonte la France, alors que nous on doit la descendre dans la nuit qui vient, en passant par Besançon, tout là-bas. Et en fait, 380 bornes d'une traite. Moi, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Il a plu. Et en fait, mal de fesses qui se met en place dès le deuxième jour, si tu veux, quoi. Et donc, gérer la douleur sur cette épreuve-là, ça m'a appris que, en fait, une fois que l'épreuve était terminée, il suffisait que 6 heures ou 8 heures passent et puis c'est fini ce problème-là. Donc je savais que c'était pas handicapant sur le long terme après la course. Par contre, c'est ce qui m'est arrivé donc sur la MR au bout de 3 jours, quoi. Et au bout de 3 jours, j'avais les fesses en feu et irritées avec une sorte de cloque, quoi, si tu veux, qui avait percé. Donc j'avais la peau à vif, quoi.
Ouais.
Et donc, tu peux plus trop t'asseoir sur ta selle. Pourtant, t'es obligé de le faire parce que t'as encore 800 km à tirer. Tu peux pas te permettre de faire ça en danseuse. Et en fait, ça te prend le mental, si tu veux. Le Maroc a beau être un pays extraordinaire, on a vécu dans des endroits, des journées de printemps, un peu comme aujourd'hui à Lyon. Là, il fait un temps exceptionnel. c'était un peu ça qu'on avait comme condition météo au Maroc. Et au bout d'un moment, si tu veux, c'est cette douleur lancinante qui est là du matin au soir, bah, ça te prend littéralement la tête, quoi. Et c'est pour ça, en fait, tu remets un peu tout en cause, tu fais des calculs, savoir si tu vas vraiment y arriver finalement, est-ce que tu t'es pas lancé dans un truc qui était plus grand que toi ou trop grand pour toi, tu te poses plein de questions, tu te dis, mais en même temps, voilà, c'était la première fois que je m'engageais sur une compétition, je suis pas venu là pour baisser les bras, en fait, donc il y avait aussi un engagement alors financier qui était pas extraordinaire, mais enfin quand même, tu dépenses, je sais pas, entre 800 et 1000 balles, quoi, en tout, entre les billets d'avion, le billet de, enfin, l'inscription, je veux dire, puis l'équipement du vélo, tout ça, l'un dans l'autre, c'est à peu près ça. Donc, puis voilà, puis tu t'es engagé, puis il y a du monde qui te suit, t'es un point sur une carte, et puis ta famille t'envoie 50 SMS sur WhatsApp tous les jours pour t'encourager. Enfin, t'es pas tout seul, quoi. T'as l'impression d'être tout seul sur ton vélo, mais en fait, t'es pas du tout tout seul. Et tant mieux, c'est génial, quoi. Mais ouais, du coup, j'étais vraiment... en fait, j'ai pris sur moi. Et puis, c'est vrai qu'un matin, il y a eu une soirée terrible où il y avait cette fameuse piste de Taghmout, là, qui était un champ de cailloux sur 56 km. C'était une horreur absolue. 700 mètres positifs, un plateau de 15 km, 700 mètres négatifs. C'est quasiment... ouais, que du caillou, enfin... une sorte de pierrier, quoi, continu pendant 56 km. 56 km, tu vas te dire, moi, si je prends mon vélo là et que je sors et que je pousse un peu, 56 km, tu peux quasiment les faire en 2 heures, en 2 heures et demie, quoi. Là, on a mis tous collectivement entre 7 heures et 8 heures, quoi. Ouais. Donc, en pleine nuit, et puis voilà, et le matin, je me réveille, dans un endroit, un petit village, quoi, et puis je me rends compte que je pleure depuis, je sais pas, un quart d'heure, je sais toujours pas, mais je voyais ce petit adolescent, ce jeune adolescent qui me regardait avec des grands yeux, qui me disait, non mais celui-là il est complètement taré, qu'est-ce qu'il a, il pleure dès le matin, mais arrête-toi, quoi, genre, c'est ridicule, en fait. Mais voilà, c'est des épreuves qui, c'est ça que j'étais venu chercher, je crois, là-dessus, c'était quelque chose de différent de tout ce que j'avais pu vivre avant. Et ce qui m'a sauvé, c'était de savoir que ce genre de douleur, malgré le fait que ce soit réellement insupportable sur le moment, c'est une douleur qui ne te suit pas après. C'est-à-dire qu'une fois la ligne d'arrivée passée, tu poses le vélo, mais tu peux quand même t'asseoir sur une chaise, quoi. C'est ça qui est bizarre. Et voilà, tu vas passer du bon temps après, et puis le lendemain, ça va quasiment être terminé, quoi. Et ça va se résorber très rapidement. Donc... mais voilà, la gestion de la douleur, c'est quelque chose que j'étais pas habitué à mener de front comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de sel, de tous les jours, quoi, pendant 6 jours. Donc c'est ça que j'ai appris, quoi, que je pouvais aller plus loin que ce que je pensais, en fait. C'était douloureux.
C'est un apprentissage à la dure. Tu as dit à l'instant, c'est ce que j'étais venu chercher. Ça veut dire que t'avais un petit truc à te prouver quand même. Tu voulais te pousser un petit peu dans tes retranchements après le confort du voyage.
Ouais, complètement. Ouais, je pense que. Puis tu sais, à force de lire des récits de voyages d'autres, tu te dis, mais ça, j'ai vraiment envie de le faire, mais. Et en fait, on ne sait pas forcément par quoi sont passés tous ces gens-là. On n'a pas forcément l'état mental ou physique. Une fois que la ligne d'arrivée est passée, on parle du meilleur, quoi, évidemment. Peut-être que d'autres sont passés aussi par cet état de douleur-là. Moi, ce n'était pas la douleur que j'étais venu chercher. Hein. Je ne suis pas un maso, quoi. Mais peut-être que c'était... En tout cas, mon expérience a été que je devais passer par là pour arriver à la ligne d'arrivée de cet Atlas Mountain Race. Donc voilà, ça faisait partie du lot, quoi. Il y a eu des très très hauts en termes d'émotion et de bonheur absolu sur la piste, des single tracks sur des terrains désertiques, dans des collines, dans des montagnes. C'était absolument extraordinaire. Tu vis tous les couchers de soleil, tous les levers du soleil, tous les contrastes, les dégradés de couleurs et de lumière, c'est vraiment c'est somptueux, le Maroc. Puis les gens sont extrêmement accueillants et gentils. Donc c'était une épreuve absolument géniale. Mmh. Mais voilà, il y avait ça qui était quand même lancinant, et c'est pour ça qu'il y a des moments où ça craquait un peu sur le vélo. Surtout que voilà, ça, tu mélanges un peu tout, quoi. Tu te demandes pourquoi t'es là, et en même temps tu sais très bien pourquoi t'es là. Tu ressasses des choses de savoir si vraiment tu vas pouvoir y arriver. Est-ce que c'était pas trop grand? Est-ce que c'était pas trop dur pour toi? Est-ce que tu t'es pas cru trop beau? Puis en plus, au fur et à mesure, on t'annonce, voilà, aujourd'hui, tant ont abandonné. Tu te dis, mais ah ouais, donc ok, je suis pas le seul, il y a quand même des gens qui abandonnent, quoi. Et en fait, il y en a un tiers, je crois, qui ont abandonné sur les 188. Il y en a 110, je crois, qui ont passé la ligne, ou 115. Mmh. Donc il y en a 70 qui ont abandonné, quoi. Donc c'était surtout des problèmes de selle, hein, comme ça, ou alors, enfin, problème de fesses, quoi. Ou alors des problèmes mécaniques, trop de crevaisons sur le parcours qui ont amené certains participants à abandonner, quoi, alors qu'ils allaient bien physiquement.
Ouais. Bah, ça nous ramène au vieil adage, parce que là tu viens de dire que on a mal sur le moment, mais que bah, le lendemain c'est finalement oublié. Ça ouais. nous ramène à l'adage de Lance Armstrong, l'abandon est définitif, la douleur est temporaire.
Ouais, ah bah ouais, c'est extrêmement vrai, ouais.
C'est ça. On pense ce qu'on veut de lui, mais n'empêche que sur ce coup-là, il a raison.
Ouais, oui, oui, ah, ça c'est sûr.
Et puis, comme tu dis, les meilleurs, quand on lit les récits, même pas des meilleurs, on lit le tien ou n'importe qui, les mecs qui gagnent, les mecs qui sont derniers, ou Stéphane qui a abandonné. On a du mal à expliquer, ou enfin à l'expliquer en audio, c'est facile, surtout Stéphane qui a très bien mimé sa chaîne qui grince. Ouais, on a du mal à écrire la douleur, on peut pas, on écrit difficilement la douleur, les odeurs, ce genre de choses.
Et puis c'est assez intime en plus.
On n'a pas forcément envie d'étaler qu'on en a chié sa race pendant 3 jours, qu'on a pleuré. Là, tu l'as fait, et c'est une vraie preuve de courage en fait. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais admettre ça, qu'on a pleuré, bah finalement, le vrai courage, des fois, c'est un petit peu ça aussi. C'est admettre ses faiblesses.
Ouais. Ah oui. Ah bah de toute façon, là, je veux dire, dans l'état dans lequel j'étais, c'était pas possible de faire semblant, si tu veux. Mm. Tu fais plus semblant, t'en es plus là, quoi. Quand je croise le regard de Yann au petit matin, et puis qu'il me voit me tortiller sur ma selle pendant les 5 kilomètres, j'arrive pas à m'asseoir. Donc je suis à moitié en danseuse, à moitié sur les genoux, mais c'est pas franc, quoi. Il a certainement l'impression que je suis assis, mais en fait, je suis pas assis, quoi. Je force sur les genoux pour pas laisser mon poids. Et en fait, t'es en train de te disloquer le corps petit à petit, parce que les genoux, tu peux pas faire 800 bandes de danseuse ou de demi-danseuse, quoi. Donc, tu commences un peu à avoir les genoux qui grincent, à avoir le talon d'Achille qui force, alors que normalement, cette mécanique-là, elle est bien huilée, quoi, parce que t'as roulé effectivement tout l'hiver. Et tu te dis, non, attends, arrête, quoi. C'est soit tu t'assois, et dans ce cas-là, tu arriveras au bout en ayant mal. Soit tu t'assois pas, mais dans ce cas-là, t'arrêtes, quoi. Parce que tu pourras pas arriver au bout. Donc, bon, mais voilà. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est tu prends sur toi. Il y a des moments où tu craques parce qu'en fait, parce que voilà, peut-être qu'on n'est pas aussi non plus tous égaux, hein, devant la douleur ou devant le fait de prendre sur soi. Si tu demandes à Patrick Lamarre aussi, avec qui on a roulé, qui lui aussi m'a avoué à la fin. Et je n'avais pas soupçonné, mais il avait eu le même problème que moi. Alors ensuite, il faudrait faire une échelle, si tu veux, de douleur. Quand peut-être qu'il n'a pas eu autant mal que moi, ou peut-être qu'il ne ressent pas la douleur de la même façon. On est tous différents. Et c'est là, en fait, où on ne peut pas savoir ce qu'on ressent les autres, parce que la douleur, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, quoi. Donc, en tout cas, ça te fait vivre des choses qui ne sont vraiment pas agréables. C'était pas une option pour moi d'abandonner, quoi. Au fond de moi, je savais que, si tu veux, c'était pas comme un mal de genou où si tu roules pendant 800 bornes avec un mal de genou, tu flingues ton année qui vient là après, quoi. C'est pas possible, c'est pas responsable. Alors que bon, bah t'as mal au cul, bah serre les dents et puis prends soin de toi, quoi.
Serre les fesses.
C'est ça, exactement. Mais bon, en tout cas, c'est passé. Et puis aujourd'hui, voilà. C'est pour ça que je peux en parler librement, parce que c'est parce que c'est fini, et je savais que ça allait être fini en fait un jour ou deux après, quoi. On n'en parlerait plus, quoi. C'est l'histoire vite passée.
Bon, bah voilà, la morale, c'est que le mal au cul, finalement, c'est pas si grave que ça.
Ouais. Après, ça te pompe ton énergie et je pense que tu peux pas gagner par contre si t'as vraiment trop mal au cul. Si j'avais eu un objectif de temps,
demande à Christian Meyer ce qu'il en pense.
Ah ben Christian Meyer, ouais, je sais bien. Ouais. Mon père me dit un matin, mais Christian Meyer, il a mal au cul aussi, mais lui il s'est arrêté. Je dis, ouais, tu vois, je suis meilleur que Christian Meyer.
Ben voilà,
je suis allé au bout.
En tout cas, t'as le cul plus résistant.
Ben voilà, bon, par contre, lui, il allait beaucoup plus vite, ça se trouve, il s'est détruit, mais bon.
Ouais, mais ça, on ne le saura jamais. Enfin, si, on va le savoir un jour. Je spoil. et oui, quand même. Du coup, cette douleur, elle est venue d'un mauvais choix de cuissard, de mauvaise combinaison avec ta selle, parce que j'ai noté que tu as une Brooks en cuir, ou à moins que ce soit une autre marque, mais en tout cas, c'est une grosse selle en cuir.
Ouais, Brooks en cuir.
Est-ce que tu as identifié une cause, ou c'est la faute à pas de chance, comme on dit?
Alors moi je roule sans cuissard déjà. J'ai pas de cuissard.
Maintenant on sait pourquoi, voilà, ok.
Bah pas forcément, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui roulent sans cuissard et avec qui ça se passe super bien. Ouais. Moi je suis allé en Mongolie sans cuissard si tu veux, mais je forçais pas. Je roulais pas 15 heures par jour.
Puis le terrain n'était peut-être pas aussi déglingué qu'il l'était là.
Ah ben non, certainement, ouais. Bah après bon, sur les pistes du Tadjikistan, c'était extrêmement défoncé aussi, mais voilà, t'as mal, tu t'arrêtes. Tu roules 45 bornes, 60 bornes en vélo chargé, tu t'arrêtes, tu prends une bonne nuit et puis le lendemain, ben voilà, tu gères en fait. Là, il y a pas de possibilité de gérer, quoi. C'est soit j'arrêtais, soit je continuais. Mais tu pouvais pas te permettre de prendre un jour de repos comme ça aurait été salutaire de le faire, quoi. Donc en fait, j'avais amené quand même un cuissard de chez Vaude que j'ai mis et qui m'a quand même sauvé la vie, mais moi, des cuissards, ça me réussit pas du tout, en fait. Moi, je m'asserre là-dedans. C'est ça qui me pose problème, en général, sur les cours de longue distance, c'est que, du coup, bah, ça, c'est comme quand tu mets, comme quand tu prends un bain, la peau de tes phalanges, enfin, de tes doigts. Tu fripes, quoi. Et en fait, bah, la peau, une fois que c'est fripé, bah, c'est hyper facile de l'abîmer. Mmh. Et en fait, moi, c'est ça qui se passe dans les cuissards, c'est que, peut-être que je transpire plus, j'en sais rien, en tout cas. En tout cas, ça m'assère, et puis avec les bactéries et tout, ça devient l'horreur, quoi. Donc, moi, je préfère avoir pas de cuissard, et puis au moins au soleil, ça sèche hyper, quoi. Mais là, c'était irrité, c'est-à-dire que c'était vraiment l'action de la piste qui était, enfin, des bumps et puis des bosses et des cailloux sur la piste qui a fait que ça a irrité la peau, quoi. Mais je pense pas que je ferais différemment, en fait, si tu veux. Hein. Après, il y a toujours les crèmes, les machins. Chacun, en fait, là-dedans, j'ai tout lu, j'ai lu tout et son contraire. J'ai épluché la littérature cyclo sur ce thème-là, qui est un vrai problème. Hein. Il y a beaucoup de compétitions qui sont arrêtées par des compétiteurs à cause des problèmes de selle, quoi. Donc c'est un problème courant et dont on parle souvent beaucoup sur les forums. Mais il n'y a pas de solution miracle et je sais pas, en fait. J'ai toujours pas trouvé ça. Ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème.
Ben, il est certain que ça fait partie des problèmes récurrents. Et je me souviens que quand Jalabert a pris sa retraite, un journaliste lui a demandé ce qui allait la chose qui n'allait pas du tout lui manquer, pardon, à vélo. Et il a répondu le mal au cul. Ça ne lui manquera jamais de la vie.
Ah ben ouais, non, mais ça c'est sûr.
Et
c'est
comme sûr. Tu dis, on a tout. On peut lire tout et son contraire. Et le problème, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est qu'il faut se faire sa propre expérience et trouver la propre solution, mais ça prend du temps, éventuellement.
Et puis ça peut changer selon la durée
exactement.
De ta pratique. Alors il faut aussi, en fait, il suffit même pas d'avoir une solution, il en faudrait deux ou trois selon tes deux ou trois pratiques différentes, quoi. Donc, il faut. En tout cas, les patchs compides m'ont sauvé la vie.
Bon, ben voilà, c'est déjà pas si mal. Ouais. On va parler un petit peu de ton vélo, parce qu'on l'a dit en préambule, tu avais un prototype de chez Decat, mais qui n'est pas... Ouais. Donc, qui est une... Donc, c'est pas un Decathlon, c'est comment déjà le nom de la gamme spécifique voyage?
C'est un Riverside.
C'est un Riverside. J'ai une petite question pute, parce que là, maintenant que tout le monde sait... Enfin, tout le monde sait... Les 14 personnes qui vont écouter cet épisode vont se dire « Ah, génial! Avec ce vélo-là, je vais au bout de l'Atlas Mountain Race. » Est-ce que c'est une question de vélo ou est-ce que le vélo n'a aucune importance dans l'équation?
Le fait d'être arrivé au bout?
Ouais. Est-ce que le vélo a une importance importante? Importante.
Ah oui, oui. Ah ben moi, j'en suis absolument persuadé. Il y a, en fait, Nelson Trees, donc l'organisateur qui a mis sur pied l'Atlas Mountain Race, avait envoyé à tout le monde un guide de la course avec une petite recommandation à un moment donné, parce que tout le monde se pose vraiment forcément la question, quel vélo pour cette course-là? Vu que c'était une première, il n'y avait aucun retour. Quelques personnes ont roulé la trace lors de l'hiver dernier pour se faire une idée un petit peu de la sauce à laquelle ils allaient être mangés. Il ressortait quand même que c'était quand même cassant. Et il y avait des très beaux single tracks, des très belles pistes gravel. Il y a pas de problème, mais il y avait quand même du caillou, quoi. Et donc beaucoup ont fait le choix du monster bike ou du VTT, quoi. Alors soit avec une suspension à l'avant. Soit en full rigide comme moi j'avais. D'autres ont fait le choix de prendre des gravels, des vélos de gravel, alors en section 40 ou 42 max, enfin selon ce qui passe dans le cadre. Mais
Jeff Tervari était un peu plus large quand même.
Il avait un rodéo Rodeo Labs, je crois. Mais c'était un peu plus large quand même.
C'était carrément large même.
Oh oui, bien sûr. Ah oui, mais lui, il était bien équipé là.
Si lui ne l'était pas, qui pourrait l'être quand même?
C'est sûr. Mais tu vois, il y avait quand même pas mal de monde qui avait du 40-42. Ils en ont souffert dans les descentes techniques où faut piloter en pleine nuit dans le faisceau de ta frontale. Il faut savoir qu'il y avait 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Donc pendant 12 heures, ceux qui jouaient la gagne, Sofiane par exemple, qui a gagné en moins de 4 jours, il a vu la moitié du parcours. Techniquement, enfin physiquement, il a vu de ses yeux vus la moitié du parcours. L'autre moitié, c'était la nuit. Et donc, il a piloté 600 ou 550 km de nuit, ce qui est quand même extraordinaire vu l'état du terrain de l'Atlas Mountain Race. C'est quand même assez fabuleux. Mais moi, j'avais fait le choix, parce que moi, j'étais équipé. Là, j'ai un Canyon doublement suspendu, là, accroché à mon mur. J'ai un Genesis Croix de Fer 20 qui est très lourd en acier, qui est un gravel. Ni l'un ni l'autre, en fait, n'était adapté à ce type de course. J'aurais quand même pu prendre le Canyon doublement suspendu. Ça aurait été très bien, mais bon, ça pompe un petit peu, dans les montées notamment. Mais celui-là aurait pu être pas mal. Mais c'est César, en fait, de Decathlon qui m'a appelé en me disant, voilà, si un jour... t'as envie de tester un vélo, sache que voilà, nous on a ce type de vélo qui est adapté à tel ou tel type d'aventure. Et je l'ai appelé et j'ai reçu le vélo, je l'ai testé dans la vallée d'Aoste. Et donc c'est une sorte de monster bike, monster cross, assez sloping dans son dessin. C'est-à-dire que le tube horizontal penche un peu vers l'arrière, vers la selle, quoi. Il est avec une grosse épaisse fourche carbone qui inspire confiance. Moi, j'avais mis des pneus Vittoria à l'avant et à l'arrière de section de 2,20 ou 2,25 pardon. Donc des gros boudins quoi en tubeless qui permettaient de. Une fois que j'avais compris, parce que moi c'était ma première expérience en tubeless, et en fait je les avais trop gonflés. C'était ça. Je pense que c'est ça aussi qui m'a détruit l'arrière-train, c'est que j'avais trop gonflé mes pneus. Et donc toutes les secousses, je me les prenais dans les fesses, quoi. Une fois que j'ai compris que je pouvais vraiment y aller et que c'était pas que dans la littérature qu'on pouvait dégonfler les pneus, les gens vont peut-être rire quand ils vont m'entendre dire ça parce que ça paraît évident maintenant, mais
non, voilà, rassure-toi. Ouais, bon. Ça fait peur à beaucoup de monde le tubeless.
Ouais, une fois le confinement sorti, je vais aller acheter du tubeless. Parce que c'est un bonheur, mais incroyable, quoi. J'ai crevé une fois, en 3 secondes, j'ai mis la mèche, j'étais reparti, quoi. J'y croyais pas. Tous les kilomètres pendant cette descente, je me suis arrêté 3-4 fois pour dire, non, mais c'est pas possible, mais comment ça tient, quoi? C'est quoi cette technologie? Le dieu tubeless m'était descendu en apparition, quoi. Et donc,
Je peux la noter, celle-là? Je la mettrai dans les annales de l'épisode. celle-là, je vais l'effacer. Par contre, j'ai honte. J'ai honte de moi, là.
Donc, le vélo joue, le vélo joue. Et puis, alors, bon, moi, je suis assez attaché à mes vélos en général. Tu crées un lien quand même avec tes vélos. Là, c'était pas le mien, mais au bout de 100 bornes, 200 bornes, 300 bornes, 500 bornes, 700 bornes, ça commence à devenir ton compagnon de voyage, quoi. Et on dira ce qu'on voudra. Moi, ce vélo-là, c'est pas uniquement parce que je l'ai testé et que je dois en dire du bien. Si je l'avais détesté, je le dirais pareil, mais je l'ai beaucoup aimé, quoi. C'était un bon compagnon, fidèle. Je pouvais lâcher les freins dans les descentes. J'ai jamais fait une faute de pilotage. Je me suis cassé la figure une fois quand même, mais voilà.
Si le vélo sauvait des chutes, ça se saurait quand même, hein, donc.
Ouais, ça se saurait, ouais. Ça, c'est le problème du pilote, ça, c'est pas le problème du vélo.
Je vais me moquer gentiment, mais quand on dit le vélo m'a sauvé d'un truc ou pas, ou les pneus, bon, effectivement, les pneus ou le vélo peut aider certains trucs, mais bon, il y a des chutes quand même. Là, on en voit passer beaucoup, évidemment, avec le confinement, on voit passer beaucoup de compilations. Il y a plein de chutes, c'est le pilote, hein, c'est pas le vélo.
Tu peux prendre le vélo
Nino Shorter, si tu sais pas rouler, tu tombes pareil. Hein.
c'est sûr. Mais là, en tout cas,
Pourquoi tu t'es mis au tubeless si tard? Bon, alors d'accord, tu viens de la route, ok, ça j'ai compris.
Même pas sur un voyage. J'ai fait pas mal de VTT en fait avec mon Canyon. Là, je l'ai eu. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans, quoi. J'ai fait la grande traversée du Vercors, la grande traversée du Jura. La GTMC, on a fait plein de trucs en VTT, peut-être que j'en vois pas assez pour que ça me ponctionne mes pneus, tu vois, pour que ça me pince mes pneus, ou peut-être que mes pneus sont trop gros pour que ça me les abîme. En tout cas, j'avais jamais eu trop de crevaisons, si tu veux, quoi. Donc, je m'étais jamais dit, oh là là, il faut trouver une solution contre les crevaisons.
Puis peut-être qu'en étant suspendu, t'avais pas encore ressenti ce problème de confort de la dureté des pneus.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, t'étais, je suppose, gonflé dur, ce qui t'évitait les crevaisons et les pincements diverses.
Ouais, avec la suspate. Je suis gonflé à 2,5, quoi. C'est ça, ouais.
Et tu pèses combien?
74, 76 même.
Ouais, ça va. Quand même, 2,5, effectivement, ça évite bien, bien des problèmes. Et je vais te faire une confidence. Quand je roule sur une racine ou un caillou et que je sens que ça tape,
ouais.
J'ai encore un instant, je me dis, oh putain, j'ai crevé, j'ai pincé.
Ah bah ouais,
et là, après, forcément. Je me dis, mais non, je suis en tubeless, j'en ai plus rien à foutre. Mais malgré tout, tu vois, je garde.
Sur un ou deux cailloux au Maroc où tu sais que ça tape, quoi. Et là, tu dis, merde. En fait, non, il se passe rien, quoi. Ouais. Et c'est là, encore une fois, tu dis, mais là, tu te vois en train de continuer ta course, ta route. Tu te dis, là, normalement, je serais en train de réparer, quoi.
Ouais.
En fait, là, c'est du temps gagné. Et là, c'est jouissif. Hein, quand tu te rends compte que la technologie, ou en tout cas, le progrès, en fait, dans l'équipement, te porte, quoi. C'est super agréable, ça.
Ouais. Ça change. C'est pour ça que quand je lis quand des mecs me disent, je suis encore en chambre à air, je comprends parce que c'est intimidant. Et tu risques de t'arracher ce qui te reste de cheveux quand tu vas essayer de monter ta première paire toi-même. Mais n'empêche que quand t'as chopé le coup de monter ton pneu à sec et après de le faire claquer, et rien que le claquage, c'est une petite victoire. Tu te dis, ça y est, c'est parti. Ouais. T'enlèves l'obus, tu fais claquer, tu mets ton liquide, tu remets tout et puis tu pars rouler, ça y est, c'est fini.
Ouais.
Bah après, il y a d'autres problèmes. Hein. Il faut pas oublier de faire le plein de temps en temps de liquide. Il faut pas oublier de partir rouler avec une chambre et une pompe, parce que sinon tu rentres à pied comme un idiot. Mais bon, quand tu l'as fait une fois, t'oublies pas. Je reviens sur l'Atlas. J'ai l'impression que t'as payé un petit peu quand même quelques erreurs de débutant entre guillemets, entre le poids, les chambres à air. T'as une expérience de cyclotouriste. Qu'on a retrouvé chez Sofiane ou chez Zoé, qui m'ont raconté exactement le même parcours du cyclotourisme à la compétition. Mm-hmm. Mais t'as quand même un petit peu payé cher ton expérience de cyclotouriste, parce que je pense que la prochaine épreuve, tout terrain, bikepacking que tu feras pas ces erreurs. T'en feras certainement d'autres, mais en tout cas, tu feras pas celle-là.
Ah oui, c'est ça. De toute façon, sur ce type d'événement de course, je pense, je pense que je changerais pas par contre ma philosophie de rôle, quoi. C'est vraiment d'arriver au bout et de se faire plaisir sur le parcours. Par contre, effectivement, dans l'équipement stricto sensu, ce que je mets dans les sacoches, comment je le répartis, et puis même comment je répartis le sommeil aussi, ça c'est intéressant. Ouais. C'est parce que en fait, ce qui est génial dans ce genre de course, c'est que t'es pas juste là pour faire du vélo, t'es là pour te poser la question de savoir comment tu te ravitailles. C'est une stratégie en permanence, quoi. À quelle heure t'arrives dans tel village? Est-ce que les commerces vont être fermés? Si les commerces sont fermés, comment tu fais? Où est le prochain ravitaillement après ce petit village que t'es censé atteindre? Est-ce qu'il va faire nuit? Est-ce qu'il va faire jour? Est-ce qu'il va faire froid? Comment? Est-ce que t'es capable, en fait, d'aller pousser jusqu'au prochain ravitaillement? C'est ça qui est génial, c'est que c'est plus qu'un voyage, c'est plus qu'une course, c'est de la stratégie pour aller jusqu'au bout, quoi. Et donc tous les jours, t'es en train de recalculer tout ce que t'avais, tous tes plans de la veille, ils tiennent plus si jamais tu te décales un peu trop. Donc t'es sans arrêt en train de voir un petit peu jusqu'où tu peux aller avant de dormir, parce que moi je dormais quand même un petit peu plus que les premiers qui sont arrivés, mais c'est sûr que c'est ça qui était hyper excitant, en fait. C'était cette stratégie de course qui est vraiment passionnante. Et ça, je pense que c'est partagé par beaucoup d'entre nous qui faisons ce genre d'épreuve, quoi.
Bah, de toute façon, le côté stratégique, et j'invite tout le monde à réécouter l'épisode avec David Schuster en septembre, et également l'épisode avec Lael Wilcox. Ce qui les intéresse, c'est aussi ce qui est intéressant, et tu viens de le dire très très bien, c'est la stratégie et les décisions que l'on prend, la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ouais, c'était l'objet de la discussion avec David, qui venait de faire quatrième de la TCR, et on parlait de la victoire de Fiona Kolbringer, et tout le monde était ébahi parce qu'une femme avait gagné la TCR. Mais l'intelligence de course n'a pas de sexe. Et là, on parle de stratégie, on parle d'intelligence. Et ça n'a pas de sexe, ce genre de choses. Donc, les bonnes décisions, ça se prend ou ça se prend pas.
Exactement,
et c'est au-delà de la force, de la puissance de la VO2 max. Et il y a d'autres facteurs éventuellement, mais le fond du truc, d'après ce que vous me dites tous, ça reste quand même la stratégie et l'intelligence de course, comment on gère, comment on prépare. Et on l'a vu avec Stéphane. Si, vu son expérience, s'il avait pris une meilleure décision en termes d'hydratation, il aurait terminé la course.
Ah bien sûr, bien sûr. Puis il avait tellement envie que c'est sûr qu'il serait allé au bout. Hein.
Mais évidemment.
C'est à contre-cœur, évidemment, qu'il a dû
quel
arrêter.
Quel con
ouais.
Mais si tu m'écoutes, Stéphane, mais quel con, vraiment.
Ouais. Ce qui est marrant aussi, dans une course comme ça, c'est les premières 24 heures et les dernières 24 heures. C'est-à-dire que tu te lances dans la course, t'as l'adrénaline, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut, enfin pour moi en tout cas, il faut trouver le rythme de cette course-là spécifique. Bon, comment t'es bien? Comment il y a une température, il y a un climat, il y a un nombre d'heures de jours par jour justement, enfin par 24 heures. Comment ça se passe? Et les dernières 24 heures, là où tu commences à voir arriver la ligne, en gros d'arrivée, comment tu la gères? Est-ce que tu donnes toutes tes forces et puis tu dors plus et t'y arrives? Est-ce que tu dors justement un petit peu avant et t'arrives frais et dispo pendant les heures de la journée? Comment ça se passe? Et c'est rigolo parce que chacun a sa stratégie aussi de départ de course et de fin de course. Comment on la démarre et comment on la termine, quoi. Et ça c'est assez passionnant de discuter avec les personnes qui ont fait la course pour voir comment chacun gère ces moments stratégiques-là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas dormi en fait la dernière nuit, qui se sont dit allez, je suis à 370 bornes, ce qui c'est quand même long, quoi, 370 bornes en VTT et enfin en vélo à travers les montagnes, et qui se sont dit je dors pas, j'y vais, quoi. Et puis ils ont traversé une journée, puis une nuit, puis encore une journée pour arriver à la ligne d'arrivée finale, quoi. Mais c'est assez marrant de voir comment on gère tous différemment ces genres de choses.
Ce qui signifie, d'après ce que tu viens de dire, que éventuellement les mecs vont prendre la décision au dernier moment de faire les 370 km ou autres qui les séparent de l'arrivée, et peut-être que ça va être une révélation aussi pour eux, parce qu'à ce moment-là, ils ne croyaient peut-être pas capables de le faire, et ils vont le réaliser. Et où à ce moment-là, ils se disent « j'essaye, je me sens capable. Et peut-être que c'est aussi une révélation, ce qu'on appelle l'épiphanie.
C'est ça, ouais. Ouais, il y en a beaucoup, qui n'ont pas dormi effectivement la dernière nuit. En fait, tu jettes tes dernières forces, en gros, parce que tu sais que ça va être la fin et que tu arrives sur l'océan Atlantique et que ça va être un peu la teuf avec tout le monde et une sorte d'excitation. Moi, je nourrissais aussi cet espoir-là de vivre des choses humaines très fortes à l'arrivée, parce que tout tend vers ça, quoi. Tu pars du parking de l'hôtel Mogador à Marrakech, qui est le point de départ. Tu penses déjà, tu vois pas, vu que tu sais pas à quoi ça ressemble, mais tu t'imagines déjà arriver sur la plage à l'Atlantique 5 ou 6 ou 7 jours après, quoi. Donc toutes tes actions tendent vers ce moment-là. Donc c'est vrai que moi, je comprends tout à fait. Moi, j'étais pas capable parce que j'avais trop mal. Il fallait que je dorme, mais je comprends tout à fait les gens qui se sont dit, ben voilà, maintenant j'arrive à un endroit là, un moment de ma course où, voilà, si je m'arrête pas, je peux faire un one shot. Et donc c'est bah, ça ajoute à l'adrénaline, je pense, de l'arrivée, quoi, de se dire, allez, j'y vais, je m'arrête quand ma roue aura touché l'eau, quoi. Et ça, je trouve ça génial. C'est des petits défis qui sont satisfaisants, je trouve, dans ce genre de course. C'est toujours extrêmement excitant de voir jusqu'où on est capable d'aller, en fait. On s'est déjà mis dans le rouge pendant 5 jours. Et non, allez hop, on y va, on continue. Et tu te remets bien, bien dans le rouge pour arriver sur l'océan. Donc, j'aime bien cet état d'esprit-là, moi. Ça me fait...
Mais toi, est-ce que tu es allé au bout du bout?
Ah, moi, je suis allé au bout du bout, mais je garde quand même toujours, je le sais, hein, je garde toujours un petit truc sous la pédale, quoi. C'est-à-dire que je me suis effondré à l'arrivée dans les bras de Yann et de Stéphane et de Patrick. De Théo aussi qui était là-bas.
Prochain épisode French... avec Théo.
Ouais, bah, la French Brigade, là, on est vraiment une belle team là, cette année. Là. On s'est tous rencontrés là-bas. Certains se connaissaient bien évidemment avant. Sofiane, malheureusement, n'était pas à la ligne d'arrivée. Il était déjà en train de faire du bikepacking.
Il était déjà reparti depuis 3 jours.
France, lui. Ah ouais, lui, il avait déjà. C'est bon, quoi. Il n'allait pas nous attendre non plus. Ça faisait trop longtemps qu'il était arrivé. Quoi.
Bah oui, quand même.
Donc, ouais, non, mais je pense que. Moi, je suis allé au bout du bout, oui, sur la piste de Taghmout, là, je suis allé au bout du bout, là. Il fallait pas que ça dure 1 kilomètre de plus, quoi, si tu veux.
Là, t'es sûr?
Non, parce que si
tu la ville avait été
10 kilomètres plus loin, bien sûr. Mais bon, le fait est que il était bienvenu, quoi, ce petit village-là.
oui.
Arrivé à 1h30 du mat, bon. Et puis, comme je le dis dans le récit, t'arrives dans un endroit, premier étage d'un petit bistrot, j'appelle ça un bistrot, c'est pas un bistrot, mais une sorte de restaurant, si tu veux, et puis il y a un plateau au premier étage dans lequel ont déjà été accueillis 5 ou 6 riders, quoi, avec les vélos sur les côtés sur les murs, et puis personne qui pipe mot, quoi, y a pas, personne ne parle, et chacun est complètement hagard en passant des toilettes, ou à son vélo, à essayer de se préparer pour la nuit. Il y a des nuages de poussière parce qu'il y a de la poussière partout. Chaque fois que quelqu'un ouvre ses sacoches de bikepacking, t'imagines, on s'est pris la poussière depuis 6 jours, là, ou depuis 4 jours. Donc, une ambiance géniale, en fait, quelque part, un peu de film, en fait. T'as des images qui sont gravées à vie, quoi, quand tu vis ce genre de choses. Chacun est dans sa bulle complète, quoi, et c'est assez fantastique, quoi, de vivre ces états de fatigue là, mais en même temps tu sais que t'es en train de vivre quelque chose de puissamment fort, quoi, pour toi et pour les autres, et tu fais partie de cette aventure là, et c'est ça qui me motive, moi, de faire ce genre de choses.
Ça veut dire que t'es foutu, tu recommenceras.
Ah ben j'espère, ouais, je pense.
Ça pourrait être quoi la prochaine?
Écoute, il faudrait quand même que je règle ce problème d'assises, mais parce que pour tenir longtemps, quand même, moi, je préfère le faire dans de bonnes conditions, évidemment, comme tout le monde. Il y a la Silk Road qui me tenterait bien que ce soit vraiment la merde de toutes les compétitions. C'est 1700 km dans des conditions autrement plus difficiles. C'est une marche plus haut, quoi, que l'Atlas Mountain Race. C'est des cols à 3008, c'est de la neige, du blizzard, du grésil, du brouillard, du froid, du moins 7, du moins 8. C'est difficile, c'est très difficile. Mais ça doit être proportionnellement aussi extraordinaire à vivre. Et puis la French Divide peut-être aussi qui m'intéresse en tout cas. Voilà, après je sais pas trop comment ça va se passer dans les prochaines années vu que je vais être papa en le 1er août, donc il y a aussi cet élément là qui va déclencher d'autres une autre période de ma vie quoi, on va dire.
Eh bien, dans la catégorie transition parfaite, nous allons nous arrêter ici, parce que moi, je vais aller m'occuper du nourrisson, moi, qui lui a 3 semaines. Il est né le 21 mars, Harry.
D'accord. Donc, bienvenue, Harry.
Exactement. Harry, Aéry, hein, bien entendu, pas Harry Potter.
Ouais.
Quand
ouais,
même. Ouais. Donc, je vais t'abandonner ici, parce qu'en plus, on a plus ou moins fait le tour. Et si on décidait de continuer, ben, on repartirait pour une bonne heure, parce que malgré tout, on a encore plein de choses à explorer. Ouais, donc, ça fera certainement l'objet d'un épisode ultérieur.
Très bien.
Et puis, en plus, ça fait déjà pratiquement 1h30. Bon, en même temps, j'ai rien fait depuis 3 semaines, donc je dois bien ça aux auditeurs. Faire un bon épisode bien gras, bien gros, après 3 semaines de silence où ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre mes blagues moisies. Donc très bien.
Ouais.
Ça leur a fait. Ouais. Merci de confirmer, c'est sympa. Oh, ça va. Attends, je me moque des gens, c'est normal de s'en prendre une petite de temps en temps.
Ah, ben carrément. Carrément.
Carrément.
C'est juste le retour.
Carrément. Si on n'est pas capable d'un petit peu d'autodérision, mais où va-t-on, franchement?
Ah, bon, on est foutu.
On carrément. Donc je vais t'abandonner là, et puisque tu es un fidèle de l'émission, et ben tu sais très bien ce qui te tend les bras. Donc je vais te laisser à ta minute de solitude, Pierre. Merci beaucoup. À très bientôt. Je pense que j'aurai l'immense plaisir de descendre vers Annecy dans les semaines à venir. Donc je te ferai signe pour une petite halte à Lyon. Comme ça, j'irai voir l'ami Fabien et il me parlera de son prochain jeûne. À Chartres, et voilà, il me racontera ses dernières péripéties. Et puis voilà, mais oui, c'est un adepte, hein, donc tu pourras lui en parler si ça t'intéresse, mais tu le connais aussi bien que moi, il est adorable. Donc, voilà, je te laisse, merci beaucoup, je t'abandonne pour ta minute de solitude, et à très bientôt, Pierre, salut.
À bientôt. Bon, ben, merci Richard pour cette surprise de moment de solitude. Alors, un moment de solitude partagé, puisque c'est un podcast, donc il faut bien dire des choses. En tout cas, moi, si j'ai une chose à retenir de l'Atlas Mountain Race, c'est bien évidemment le bonheur de découvrir toutes ces pistes et savoir reconnaître le passage sur tous les autres concurrents avant moi. J'avais un malin plaisir à essayer de lire sur le terrain la trace parcourue par les participants qui étaient passés avant, et de savoir par moment si c'était la bonne trace ou pas. Alors par moment tout le monde s'était planté, il y en avait un qui s'était planté au début, peut-être Sofiane, peut-être un autre, et tout le monde suivait. Et par moments, c'était pas la bonne trace, ça tombait sur trop au bord d'un sentier ou quoi. Donc voilà, apprendre à suivre les traces et apprendre à faire les siennes, ce sera le moment philosophique de ce moment de solitude. En tout cas, bon vent à tous, bonne fin de confinement, et on se revoit sur les vraies routes au soleil dans pas trop longtemps, j'espère. Allez, à bientôt et bon vent. Salut.